qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, ta présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Bernie Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
14 mars 2020, ce sera notre dernier invité avant la grande pandémie, qu'il avait d'ailleurs mimé en toussant dans notre générique de fin. 15 mois plus tard, c'est avec lui que nous voulions refermer cette saison folle et surtout célébrer sa remarquable prestation dans ce nouveau film. Alors bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
À première vue, un mythomane capable de s'inventer mille vies face à un enfant qui a tellement envie de le croire. Et derrière cette folie, une souffrance, une colère, une violence, le rôle était très complexe. Bonjour Benoît Poulvorde.
Bonjour Laurent, bonjour Christine. Bonjour amis auditeurs.
Au cœur de ce film Profession du père de Jean-Pierre Améris, adapté du livre de Sorge Chalandon, où comment jouer subtilement toutes les couleurs de cette folie, et pour le réalisateur, filmer l'état de croyance du fils entraîné dans ses folles aventures. Profession du père de Jean-Pierre Améris sortira le 28 juillet, retenez bien cette date. Enfin, les sorties de ce mercredi de Gagarine à Ibrahim, sans oublier les festivals de l'été et le prochain sous les palmiers, Cannes et un invité surprise. C'est parti.
C'est la guerre !
Qu'est-ce que tu racontes ?
C'est la guerre !
De Gaulle parle à 20h.
C'est la guerre, maman ?
Qu'est-ce que j'en sais ? Finis ton dessin, chef.
Finis ton dessin. C'est certainement pas en décidant ta mère que tu vas sauver le monde. Hein.
André, il a 11 ans, c'est pas un âge pour parler de politique.
Ah non, tu vas voir si c'est pas un âge pour parler de politique. Il est branché le poste !
Voici que l'État est bafoué. La nation bravée. Notre puissance dégradée.
Notre puissance dégradée ?
Au nom de la France.
Mais la puissance n'est pas dégradée. Ma puissance n'est en aucun cas dégradée. Ben ça, c'est facile de parler comme ça. Tu fais mal à la France.
Tous les moyens. Je dis.
Mais tous les moyens, donnez-nous les moyens.
Voyez partout. Pour barrer la route à ces hommes-là.
Mais quelle route? Barrer la route. Mais on va te barrer la route à toi.
De les réduire.
C'est toi qu'on va réduire. Tu sais ce que c'est un serment? Tu sais ce que c'est un serment, Émile?
Un serment. Un serment, c'est une promesse qu'on ne doit jamais, jamais trahir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi son serment. Il a trahi son serment. Tu comprends? Il a trahi son serment.
Profession du père Jean-Pierre Améris. 23 avril 1961, le lendemain du coup de force à Alger des généraux Challes, Salan, Zeller et Jouot, De Gaulle décide d'assumer les pleins pouvoirs. Voilà pour la référence historique. À partir de là, André Choulan, c'est vous de Benoît Poulvorde, entre en résistance et va entraîner son fils dans l'aventure de ses mensonges. Première mission pour son fils, inscrire le nom des généraux putschistes sur les murs de Lyon. Le film est adapté d'un livre de Sorge Chalandon. Est-ce que vous l'avez lu avant?
Oui, je l'avais lu avant. Avant même qu'on propose le scénario. Oui, je connaissais le livre. J'aimais beaucoup les livres de M. Chalandon.
Oui.
Donc, quand on m'a proposé le scénario, j'ai trouvé que c'était casse-gueule parce que ça traitait déjà de l'Algérie. Et puis, c'est un sujet difficile parce que le père. On rit un petit peu là au début. C'est, oui. En tout cas, c'est une excellente idée d'avoir ouvert votre émission comme ça parce que tout est dit. Le type, il hurle sur un téléviseur. Temps, donc, il a une sorte de colère sourde. Pourquoi est-ce qu'il est si attaché à l'Algérie? Pourquoi est-ce qu'il hurle? C'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Les gens crient sur les images parce que les images ne leur répondent pas. Et il va entraîner son fils. Et en effet, il va commencer avec des choses assez modestes. Mais pour répondre à votre question, oui, je connaissais le livre avant. Donc, quand on m'a proposé le scénario, j'ai dit, mais j'étais rassuré parce que c'était Jean-Pierre Améris, qui lui avait un rapport avec ce bouquin, qu'il arrivait à mêler, comme dans pas mal de films qu'il fait, à son histoire personnelle. Visiblement, il a eu un... Je me permets de le dire, puisque je l'ai entendu en entretien.
Il le dit lui-même, oui.
Il a un père qui était assez violent, donc pour lui, c'était une manière d'exorciser des choses qui l'ont un peu, parfois, bousculé. Et donc, ça formait une bonne équipe, lui et le livre, et moi.
Et vous, justement, entre le père un peu plus dur du livre et le père d'Améris, il fallait composer votre cuisine.
Tout à fait, ouais. Alors c'est très marrant parce que je savais en lisant le scénario, je le trouvais assez bien adapté, bien qu'il s'en dégage quand même pas mal. Même pour, on va pas divulgâcher, mais c'est pas la même fin.
Non.
Et d'ailleurs, je vous raconterai une anecdote sur ce que le père a dit véritablement à la fin. Mais ça, on se le gardera pour la fin de l'émission si vous me donnez l'opportunité. Mais oui, ce qui était très marrant quand je tournais, c'est que moi, j'avais tendance à baisser mes... Non, à monter, mais je savais que pour tout ce qui était de l'ordre du... Bon, c'était un mythomane, un vrai, quoi.
Oui, oui.
Alors ça peut faire rire un mythomane. Personnellement, j'aurais eu un père qui me racontait des histoires, qui vous entraîne dans le merveilleux, qui en plus est disponible, puisqu'il ne fout rien, ne travaille pas, on ne sait pas, il est au chômage, et c'est sa femme qui travaille dans les années 60. C'est quand même pas évident de se faire entretenir par sa propre femme, donc il est encore plus injuste, encore... Mais il donne du temps à son fils. Donc avoir un père qui vous fait rêver, qui vous dit, tiens, regarde ce lit, il va monter au ciel, c'est Little Nemo. Non, lui, malheureusement, il va s'en servir pour dire, nous sommes des soldats, nous partons en guerre, et nous irons assassiner De Gaulle, c'est comme ça. Je ne veux pas tout divulguer, bon, bon. Et donc, pour tout ce qui était d'exagéré, c'est-à-dire tout ce qui est habile personnage, c'est la fabulation. Donc ça, je savais que c'était normal qu'on m'ait choisi. Parce qu'il faut monter, faire croire que je suis ceci, je suis cela, j'ai fait ça. Bon, alors j'avais tendance à monter là, alors il me rabaissait, et pour toutes les scènes de violence, parce qu'il y en a, hein, parce que forcément quand il ne se sent pas écouté, le père, ben, il frappe, quoi, il tape, il est... voilà. Et donc là, par contre, Jean-Pierre... C'était précieux de l'avoir à mes côtés parce que il me dit, n'aie pas peur, tu peux monter là-dessus. Alors que moi, je dis, j'avais peur.
Et justement, on va écouter une scène de violence. Votre femme, la mère du petit, a décidé d'aller écouter les compagnons de la chanson, sans lui, toute seule. Et elle revient un petit peu tard après ce concert.
Ouvre-moi, s'il te plaît. Entrez.
Qu'est-ce qu'il y a, papa ?
Lilia, tu vas aller rejoindre cette folle sur le paillasson ?
Non, tu laisses Émile tranquille.
Alors ? Ils étaient bons, les compagnons de la chanson ? Réponds !
Oui, si tu veux, je sais pas.
Je peux la laisser entrer, quand même.
Ah, d'accord. Vous êtes tous les deux contre moi, c'est ça ?
Personne n'est contre toi. Personne n'est contre toi, André. Non ! Non !
Ça, c'est pour les exploits de ta mère.
Arrête.
D'accord.
Arrête, André.
Quoi?
Émile, va te coucher.
Ah oui. Tu sais quoi? Tu vas dormir sous le paillasson, collabo.
Je dors où tu veux. Je veux juste que tu laisses le petit tranquille, s'il te plaît, s'il te plaît.
Oh, t'as peur que je fasse mal à lui? Ah!
André, arrête, s'il te plaît, il arrive pas, c'est pas lui.
T'es en train de le tuer, ton gosse. T'es en train de le tuer.
Je suis désolée, regarde, je dors sur le paillasson, si tu veux. Mais tu laisses Émile retourner se coucher, s'il te plaît.
Tout ça pour un concert minable. Je te préviens. Si tu lui ouvres, je la tue. T'as compris ?
Waouh, face à vous, il y a Audrey Dana. Non. Et le petit garçon qui est assez incroyable.
Ah oui, il est... Oui. Jules Lefebvre.
Ouais. Jules Lefebvre.
Ouais, il est incroyable, ouais.
Comment ça s'est passé entre lui et vous ?
Ce qui était très important, c'est qu'il ne... Parce qu'une fois qu'il est sur le plateau, il est, comme je dis toujours, même si c'est un enfant, et il va devoir jouer un enfant. En plus, il avait 2 ans de moins, parce que c'est juste avant le Covid. Il devra être traité comme un adulte, c'est-à-dire il doit devoir le refaire. Donc ça m'inquiétait. Donc il pouvait très vite tomber dans... J'avais peur d'un acteur qui tombe dans l'écueil de geindre et de jouer l'enfant. Parce qu'on l'aura mis dans des conditions d'adulte, mais il jouait surtout avec Jean-Pierre, répété, on le faisait dans beaucoup d'axes. Il pouvait très vite se fatiguer, mais et il a été extraordinaire. Le premier jour, j'ai dit, c'est bon. Parce que c'était une inconnue, hein. Si jamais Émile Aude qui fait l'enfant, non, il devait garder cette énergie, cette innocence qu'il a dans le regard, et parce qu'il a de l'amour pour moi, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que j'y vais quand même un peu fort.
Bonjour Jean-Pierre Améris.
Bonjour.
Ah, Jean-Pierre.
Bonjour, Jean-Pierre.
Bien, pas dire de saloperie sur toi.
Adapté le livre de Sorc Chalandon, Benoît d'ailleurs l'a déjà un petit peu dit, parce que cette histoire, en fait, résonnait avec la vôtre, Jean-Pierre Améris.
Elle résonnait très fort avec la mienne, hein, et j'ai pu faire avec ce film un peu le portrait, quoi, de mes parents disparus, de mon père, hein, qui n'était pas mythomane, hein, c'est la part de Sorc Chalandon, mais qui en revanche était ce qu'on peut appeler un tyran domestique, hein, et qui était un homme plein de frustration, plein de souffrance, plein de ressentiment, et tout cela se reportait sur une violence dans le cadre familial. Je dois dire que, pour moi, ça ne pouvait être que Benoît. Je fais avec Benoît, c'est ma grande chance, un chemin de cinéma, puisque je fais avec lui mes films les plus autobiographiques, hein, Les Émotifs Anonymes, Une Famille Allouée, et maintenant Profession du Père. Et vraiment, parce que d'abord, je l'aime, et puis surtout, je me sens proche de lui, et je savais que dans ce rôle, alors que tout son entourage professionnel lui déconseillait de le faire, je savais qu'il y apporterait son tragicomique et son humanité, quoi, qu'il jouerait pas avec plein d'œil au spectateur. Pour moi, c'est du côté d'Alberto Sordi.
Hein, oui,
merci Jean-Pierre.
Mais Benoît, vous dites dites quand même sur Jean-Pierre Améris, il est très dur sur un plateau.
Non, il n'est pas dur, il a une manière d'aborder le tournage, c'est quelqu'un d'assez énervé. J'ai fait les émotifs anonymes, il a une manière de... Il prend tout très à cœur, je veux dire, Jean-Pierre ne s'arrête jamais de tourner, donc toutes les choses doivent être comme il les a mis dans sa tête, parce qu'il a déjà beaucoup de mal à communiquer. Excuse-moi Jean-Pierre, hein, je parle de toi,
je t'en prie.
Mais je sais que tu l'entends. Donc
On est entre nous. Hein.
Oui, on est entre nous, je veux dire, si quelqu'un nous entendait, je le saurais. Mais non, il a une énorme énergie en lui, donc déjà, il fait beaucoup d'efforts déjà pour s'exprimer en public. Si vous avez vu les émotifs, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a énormément... Donc, toute chose qu'il fait, il le fait avec énormément d'intensité, donc il peut demander de manière parfois très exigeante. Son exigence peut paraître parfois un peu brutale. Mais parce qu'il a tout dans sa tête. Donc
je peux me permettre de raconter un souvenir. Là, c'était la première semaine de tournage des émotifs anonymes. On faisait la longue scène du restaurant. Et après une prise, j'ai dit couper, je me suis approché de toi et je t'ai dit, elle était très bien, mais voilà, il y a eu un problème, on va la refaire, tu as respiré. Je crois que je me souviendrai toujours de ta vie, de ton regard sur moi, et tu m'as dit, mais la prochaine fois, on vient juste vomir. Donc c'est dire que je suis peut-être un tout petit peu tatillon.
Non, surtout, c'est-à-dire que c'est pas seulement sur les acteurs, c'est ouais. S'il y a une cruche dans le décor, Jean-Pierre, il va dire, mais il faut valider cette cruche, elle n'est pas validée, alors enlever cette cruche, et qui a mis cette cruche? Vous voulez vraiment que je tourne avec cette cruche? C'est ça, donc c'est une sorte de... Ça lui permet à lui tu vois, voilà, c'est quelqu'un... En même temps, il est d'une très grande gentillesse, ça, mais il faut s'habituer. Une fois que vous avez tourné avec lui, je connais ses regards, je sais... Je dis, même s'il répète quatre fois la phrase, c'est comme s'il l'avait dit qu'une fois pour lui. Mais il a c'est sa timidité, son immense énergie, il bouillonne d'énergie.
Question à tous les deux, mais il fallait quand même pour ce rôle, Jean-Pierre Améris et Benoît Poulevard, mélanger de la fragilité et de la force. C'est pas un mec qui gueule, c'est aussi un mec qui a des silences, qui souffre, non?
Bien sûr, vous savez, quand Benoît et moi avons fait la première lecture, hein, tu te souviens, Benoît, ta première question et ta seule question, ça a été, mais ce personnage de père, est-ce que tu l'aimes? Et je lui dis, bien sûr que je l'aime, hein, parce que c'était beaucoup mon père, hein, et que j'aimais mon père, et que tout le sujet, c'était, voilà, comment un enfant à 10 ans fait avec tout ce qu'il comprend pas, et les violences, et les conflits entre les parents, la soumission de la mère, mais avec amour, quoi. C'était tout l'enjeu du film, hein, de traiter tout cela avec amour, et je savais que Benoît aurait cette humanité, et il savait, hein, je crois, hein, être en confiance, parce que je pouvais l'accompagner dans ses débordements.
Tout à fait.
Ouais. Avec
beaucoup de confiance. Oui. Et j'avais beaucoup de confiance au regard. C'est très important que le réalisateur, tu puisses lui faire confiance. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. Je vais jamais au combo. Il suffit de regarder le regard du réalisateur. S'il te dit. Si, ça va, ou remonte là. Bon, en dehors du fait aussi qu'il faut connaître son texte, hein, Jean-Pierre.
Pourquoi il ne connaissait pas bien, Jean-Pierre?
Non, c'est avec Jean-Pierre, c'est très.
Il faut connaître toujours son texte, hein. Et puis moi, je suis le premier spectateur, hein. Ouais. Et Benoît m'épate, quoi, hein. Il va si loin, il est si vrai, quoi, hein, que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un réalisateur.
Oh, c'est gentil, Jean-Pierre.
Jean-Pierre Améris, le dessin dans le film va sauver l'enfant, l'écriture a sauvé Sort Chalandon. Est-ce que vous, c'est le cinéma qui vous a sauvé?
C'est vraiment important, hein, de trouver son expression, de trouver son territoire à soi. Hein, c'est ce qui sauve en effet le petit garçon, d'avoir cette expression, d'être doué pour le dessin. Il peut transformer les choses, les mettre sur le papier, les mettre à distance. Et je crois, c'est ce que je dis toujours, moi qui aime beaucoup faire des scolaires, qui en fait d'ailleurs avec le film, là le film, je suis content, touche beaucoup les adolescents, les garçons et les filles de 11-12 ans, et je leur dis toujours de cultiver leur espace à soi. C'est le chemin du film, hein. Le petit garçon va quand même, à un moment donné, sortir de l'emprise du père, hein, et pouvoir dire, papa, c'est toi qui es fou, quoi. C'est pas moi, quoi.
Et même se servir des armes de son père aussi.
Oui, des mensonges.
Des mensonges. C'est important, ça.
Oui, c'est un chemin, mais qu'on fait tous, hein, d'une certaine façon. Il y a toujours un moment donné où on met sur un piédestal ses parents, hein. Ce sont des idoles, on les mystifie, hein, à un moment donné. C'est la fin de l'enfance, peut-être, voir que ce sont des pauvres êtres humains comme nous, hein, comme moi le premier, et des gens souffrants. Mon père n'était pas aimé par ses parents, etc. Il avait fait l'Algérie, hein, et donc des gens traumatisés, hein. Mais ça, on ne le sait qu'après, et souvent, on le sait trop tard.
Est-ce que ce film vous fait du bien?
Alors là, je suis en tout cas très heureux. Vous savez, je présente le film dans une ville différente chaque soir. Et Benoît, je peux te dire d'abord que les gens, non seulement t'admirent, mais t'aiment, quoi. Hein. Ils sont impressionnés, quoi, par l'humanité que t'as mis dans ce personnage. Et oui, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir après les débats. Ça me vire un peu thérapie de groupe, mais pour dire qu'ils y retrouvent des choses de leur enfance. Il y a l'histoire extraordinaire, littéralement, tragicomique, hein, et captivante de Sorche Chalandon, avant tout. Mais on y retrouve tous quelque chose, voilà, de ce moment de l'enfance où il fallait faire avec tout ce qu'on comprenait pas autour de nous.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Améris.
Merci Jean-Pierre. C'était magnifique ce que tu as dit.
En tournée, merci beaucoup.
Je suis très heureux. Merci à tous.
Merci à toi.
Il y a des moments aussi drôles pour nous parce que ce père raconte un peu n'importe quoi, s'invente tous les métiers et notamment qu'il aurait créé, ce serait lui qui aurait créé les Compagnons de la Chanson.
Ouais,
et il va même plus loin avec Édith Piaf.
Tu connais Édith Piaf? Édith Piaf. Non, rien de rien. Hein, eh ben, c'est moi. C'est moi qui ai présenté Édith Piaf aux Compagnons. C'est moi qui l'ai amené à leur premier gala. Enfin, pas leur premier, mais... Et elle était dans la salle, elle était face à eux. Elle les regardait. Et moi, j'étais sur le côté, parce que je voulais pas qu'on s'intéresse à moi. Et elle était bouleversée. C'est pour ça que je ne veux pas que ta mère applaudisse à des gens qui ne m'ont jamais remercié et qui m'ont toujours trahi. Voilà.
Tu l'as raconté à maman ?
Non. Ta mère, moins elle en sait, mieux elle se porte.
Et c'est terrible, parce que là... Il invente tout, tu vois. Et après, c'est toujours le résultat, c'est toujours une aigreur. C'est-à-dire, c'est pour ça, voilà. Ça justifie le fait que j'ai mis une petite tarte à ta mère, parce que sans moi, il n'y aurait pas de Compagnon de la Chanson. Sans moi, il n'y aurait pas d'Édith Piaf. Sans moi, il y aurait... Voilà. Et comment je suis remercié? C'est les gens qui disent je donne et je ne reçois rien. Et ça se trahit toujours par une aigreur.
Il était parachutiste, agent secret, prof de judo, footballeur.
D'ailleurs, ça s'appelle Profession du père, puisqu'un matin, on lui demande, le petit garçon, d'écrire sur son cahier Profession du père. Agent secret, quoi. Entre autres, puisqu'il a 500 métiers.
Comment vous l'expliquez, cette mythomanie?
Moi, je pense que ça tient beaucoup à la... Enfin, je vais pas faire de la psychologie de bazar, comme dit Jean-Pierre, mais je pense que c'est s'inventer des choses pour faire partie d'un groupe. Et quand on se sent rejeté d'un groupe, alors on les crée et on justifie ces exclusions. Alors, on finit par inventer des groupes qui permettent de... On devient mytho pour dire « j'en fais partie ». Et donc, beaucoup de gens, il y a des mythomanes très drôles qui vont te dire, j'ai travaillé avec machin, tu sais que sans moi, j'aurais jamais fait, Apocalypse, c'est moi, quoi. Mais après, je m'en fous, des moments, il y en a qui sont comme ça, parce que ça fait faire partie d'un groupe, parce que souvent, le mytho se glisse dans une conversation où tu te dis, je me souviens d'un type que Edouard m'avait présenté en disant, voici un homme qui fait tout pour qu'on croit qu'il est mytho. Parce que ça, c'est l'inverse. Mais être mytho, tu te dis au départ, au demeurant, je crois que c'est essayer de s'intégrer à quelque chose. Alors le problème, c'est que quand vous êtes vraiment pas intégré à la société, la mythomanie finit par servir, à exister pour pouvoir faire du mal aux autres. Donc moi j'avais déjà rêvé de faire un film sur les mythomanes, tu sais, qui donne des mauvais conseils. Quelqu'un qui dit, mais tu sais, moi je travaille dans la botanique, tu devrais pas mettre ta plante là.
Ouais.
Ah bon, mais j'ai fait 10 ans là-dedans, tu vois. Bah si, ce genre de plante, ça a besoin de rester dans l'ombre. T'attends 3 semaines, tu vas voir. Et à mesure que t'avances, tu vois cette plante qui crève, mais lui il a déjà complètement oublié qu'il ne s'y connaît absolument pas en plante.
Et dans son cas, c'est aussi faire oublier un passé dont il ne veut pas et dont on sent qu'il n'est pas très reluisant.
Non, je pense qu'il a pu faire, il a fait partie de rien. Ce qui est vrai, en plus, mais ça je l'ai appris par Jean-Pierre, il va donner une suite, Sorge Chalandon. Son père, comment dirais-je, pardon. L'écrivain va écrire un livre sur ce qu'il a vraiment fait. Parce que dans le film, on croit qu'il a fait la guerre, pense qu'il a participé à la guerre d'Algérie. Et là, je sais que le livre va sortir, et c'est pas brillant, mais bon.
Bonjour, Sorge Chalandon.
Ah ben voilà.
Bonjour.
Vous avez écouté,
Sorge. Quelle surprise.
D'ailleurs, oui, je suis là.
Vous vous êtes rencontrés déjà tous les deux ou pas?
Oui, il est venu sur le plateau.
Bien sûr. On s'est vu sur le tournage et je crois que j'ai eu envie d'appeler papa et puis et puis je me suis aperçu, mais tout de suite, hein, que j'ai assisté à une scène.
Ah oui, c'était.
Je me suis aperçu qu'il avait, alors. Il incarne le père de façon absolument mais somptueuse, c'est-à-dire que malheureusement il ne le sait pas, mais j'étais,
J'étais derrière et je pleurais, les gens de la prod me passaient des Kleenex, c'était épouvantable. Mais en tout cas, il avait quelque chose, Benoît Poulvord, dans le regard, quelque chose qui n'existait pas chez mon père, et c'est dommage parce que je l'aurais aimé, je pense, mais il avait un désarroi et une fragilité. Il a un désarroi et une fragilité lorsqu'il joue. Une humanité qui est absolument, enfin qui me réconcilierait presque avec le père que j'avais, que mon père n'avait pas, mais là, Jean-Pierre et Benoît ont fait quelque chose de lui qui est profondément humain, et surtout moi ce qui m'assèche totalement et ce qui me fait pleurer encore plus, c'est qu'on voit dans son regard sans cesse la fin qui arrive, la fin qui vient, et jouer ça. Je sais pas comment il a fait. Oh, et j'espère qu'il n'y avait pas trop de lui à l'intérieur, parce que c'était tellement fort, tellement fort. Donc oui, je l'ai vu, je suis ressorti de là, j'ai mis, je crois que je m'en suis pas remis, et c'était pourtant il y a 2 ans.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Parce que c'est votre, c'est drôle de voir sa vie quand même dans une loupe comme ça, énorme, sur un grand écran. Ça doit faire un effet quand même énorme. Là, vous parlez de Benoît, mais il y a aussi Audrey Dana qui joue la mère. Vous avez vu, vous revoyez votre mère à l'écran.
Alors oui, c'est-à-dire que ça permet aussi moi de me désengager. C'est-à-dire que moi, je plains le petit enfant joué par Jules Lefebvre. Je plains l'autre enfant à qui le petit Émile ment et qui est joué par Tom Lévy, je les plains. J'aime ce père-là, c'est-à-dire que paradoxalement, le fait d'être dans la salle et de regarder le film, je me dis mais quelle horreur cette enfance qu'il est en train de vivre, et je me détache parce que c'est comme ça que je m'en sors. Mais c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus proche de la réalité en écrivant le livre. Là, je ne pouvais pas me dire c'est moi, parce que autrement je serais, je quitte la salle en hurlant. Là, brusquement, je vois une histoire qui est absolument insensée, invraisemblable, et je le fais comme un spectateur. Et c'est en ça que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à aucun moment je ne pleure pas sur moi. Je pleure sur le petit Étienne joué par Jules. Oui. Je n'ai pas peur de mon père, j'ai peur de l'homme joué par Benoît. Et je ne me souviens pas de ma mère. J'aime une chose, parce que ça c'est une chose qui n'a pas encore été dite, mais Jean-Pierre Améris a prêté à cette mère-là, donc à ma mère, lui a prêté une humanité qu'elle n'avait pas tout à fait. C'est-à-dire, cette mère-là protège l'enfant. Mais qu'est-ce que ça me va bien, quoi? Qu'est-ce que ça me va bien?
D'ailleurs, dans le livre, vous écrivez que votre mère vous dit à un moment, tu étais malheureux quand tu étais petit. Elle vous pose la question à la fin.
Découverte.
C'est fou.
Non, mais c'était une question. Comment ça? Tu étais malheureux quand tu étais petit?
Ouais. Ah oui, c'est ça.
Et vous la regardez, je la regarde et je me dis, mon Dieu.
Mon Dieu. Vous avez amené vos enfants à la projection, Sœur Chalandon?
Oui. Alors d'abord, j'ai emmené ma grande-fille sur le plateau. Et c'est très difficile de pleurer enlacée à ma fille de 16 ans à l'époque, qui savait tout ça, mais le voir sur l'écran, le voir incarné, c'est terrible. Et ensuite, j'ai emmené ma petite aussi, 12 ans, et tous les deux m'ont regardé, ont regardé ce film avec une violence inouïe et en même temps apaisée. Parce que moi, je vais pas reparler de l'Irlande parce que je suis très fan de l'Irlande, mais il y a une phrase d'un très grand monsieur qui s'appelle Bobby Sands, gréviste de la faim, mort en 1981, qui a écrit juste avant de mourir, gréviste de la faim pour le statut de prisonnier politique, qui a écrit avant de mourir, ma revanche sera le rire de mes enfants. Et ma revanche et mon cadeau, c'est ce film, c'est Benoît, c'est Jean-Pierre, c'est Muriel Magellan qui a travaillé au scénario, et c'est le rire de mes filles quand elles me disent « Papa, imite ton père, s'il te plaît, pour qu'on rigole ensemble. »
Merci beaucoup, Sœur Chalandon.
Merci, c'était merveilleux.
Merci à vous tous.
Merci. Benoît, quelle salve de compliments, mais de réflexions profondes. Vous vous rendez compte que avec un rôle, on peut aller super loin, en fait.
Oui, bien sûr, mais comment dirais-je, ce que je trouve merveilleux ici, vous avez, merci pour ce cadeau, vous avez rassemblé à la fois l'écrivain, le metteur en scène, chacun se l'est accaparé, parce que quand vous entendez l'histoire de Sorge, c'est quand même... Et en même temps, c'est un livre quand même plein de... Moi, je me souviens du livre, il m'avait bouleversé. Donc, et vous vous dites que tout ça s'est rassemblé, donc c'est pas... Tout le monde y a mis... Et en fait, on l'a jamais fait en pensant qu'on était en train de faire un truc qui allait bouleverser les existences de chacun. Je pense qu'on l'a pris vraiment... Non, je suis très heureux. Ça m'offrait une très jolie vision. J'ai un peu le souffle coupé. C'est fait dans la simplicité, alors que c'est très grave.
Oui.
Parce que je me souviens à la première réunion, quand on a fait la première lecture. J'avais déjà beaucoup de rapports intimes avec Jean-Pierre, mais là, j'ignorais que son père avait été assez. Et il a raison, Sorge, quand il dit que la maman, ça, il me l'a dit, Jean-Pierre, j'ai mis beaucoup de ma maman. C'est marrant parce que même le producteur qui s'appelle Olivier Delbosc, à la lecture quand j'arrive, donc Jean-Pierre me confie ça juste avant la lecture, je dis ah oh merde, je savais pas. Et puis ensuite arrive le producteur qui me dit moi je fais Sophie, hein. Bon je l'imite parce qu'il a un accent du sud alors qu'il n'y a jamais mis les pieds. Alors il dit moi je fais Sophie, hein, je vais te le dire, hein, parce que mon père est un salaud, hein. Mon père lui a donné des baffes. Hein. Alors, je dis putain ça fait deux. Et quand j'ai rencontré Ada, c'était le même soir, elle m'a dit moi j'ai même écrit un livre là-dessus parce que j'ai eu des problèmes difficiles avec des hommes qui m'ont mis sur la tronche. J'ai dit, eh ben sympa, eh ben ça va être sympa comme tournage. Et vous voyez, j'aurais pu dire, ah ben ça va être sympa, ça va être une belle petite thérapie de groupe dès qu'on prend une cuillère. Et bien pas du tout, absolument pas. Ouais. Par exemple, les scènes où je vais dire, les scènes les plus compliquées n'étaient pas les scènes où je tapais l'enfant ou même si j'humiliais ma femme, parce que en fait, on arrive très vite à prendre une distance en disant, on va l'exagérer au début, quand tu fais les mises en place, et tu prends une distance, c'est plutôt pas ça. Moi, je pense que la scène, par exemple, je vais pas divulgâcher, la plus dure que j'ai eue, c'est quand je trahis mon fils. Là, toi, ça, pour moi, c'était épouvantable. C'est-à-dire que ce gosse a tous ses espoirs en moi. Et comme une pauvre petite... une petite merde, je le lâche, quoi. Je l'abandonne comme une merde. Et il regarde mon fils qui dit « Purée, c'est pas possible, papa, quoi. C'est un lâche, quoi. C'est un lâche. Alors, tu te rends compte que ton père est un lâche, en plus, c'est terrible. Donc, c'est pour ça que, comme dit très bien Jean-Pierre, c'est pas moi qui est fou, papa, c'est toi.
Oui.
Ça s'appelle Profession du père, Jean-Pierre Améry, sortie prévue le 28 juillet. Sinon, le festival de Cannes approche, et 6 juillet prochain, début des festivités. Alors, pour se mettre
quelques insolations, des gens connus, des bobs, des shorts de mauvais goût.
Pour se mettre en jambe, un morceau de la BO d'Annette de Léos Carax qui ouvrira le festival, Les Sparks, Adam Driver, Marion Cotillard. One, two.
So may we start. So may we start. It's time to start. High time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we not start.
So may we start.
May we start. May we not start.
It's time to start.
May we start. May we not start.
My time to start.
May we start. May we not start. We fashion a wall, built just for you. A tale of songs and fury, with no taboo. We'll sing. In mine and his,
and if you want us to kill too,
we may agree.
So may we start.
À Cannes, cette année, on le verra défendre trois films, à commencer par le sien, Serre-moi fort. Bonjour Mathieu Amalric.
Bonjour Christine.
Bonjour Mathieu Marie.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour.
Benoît, c'est Benoît qui vous disait
c'est
bonjour.
C'est Benoît qui l'a.
Benoît oh, Paul Vord.
Oui, celui qui t'écrase à la natation.
Oui.
Tout bon d'acier.
C'est beau ce que tu racontais. C'est beau ce que je t'écoutais là.
Ouais.
Ah oui.
Sacré bel éclairage pour vous, Mathieu Amalric, de présenter ce film à Cannes. Nous avons eu la chance de le voir avec Laurent, nous l'avons beaucoup aimé.
Beaucoup.
Alors, le synopsis de Serre-moi fort dit « Cela semble être l'histoire d'une femme qui s'en va ». Mais en fait, le raconter, ce film, Mathieu Amalric, c'est casser son énigme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Eh oui, c'est bien ça. C'est
mais
pour
oui.
ça qu'on a trouvé que cette manière de résumer le film. C'est vrai, et à un moment, la petite fille dit même « Tu devrais nous sortir une histoire qu'on puisse raconter. Ah. » Et c'est drôle, j'écoutais Benoît qui parlait de la mythomanie pour le film de Jean-Pierre, de ce besoin d'invention pour ne pas devenir fou, peut-être. Ouais. Et ça résonnait, je ne sais pas, quand je l'écoutais, avec Serge Chalandon qui parlait du rire de ses filles à la vision de le... Voilà, comment transformer quelque chose. C'est une illusion tragique, c'est pas une illusion comique. Oui.
On va écouter un petit extrait de Serre-moi fort dans la voiture avec Vicky Krieps, cette incroyable comédienne qui a été révélée au monde en Phantom Thread de Paul Thomas Anderson.
Ping, 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 tu nous casses les oreilles. Tu as joué des gammes pendant des années. Allez, joue. C'est bon, joue.
Tu sais jouer. Je savais que tu sais jouer.
Tu l'as vu, maman, vendredi.
Vendredi.
T'as dit quelque chose ?
Oui. Oui, c'est ça !
La musique capitale dans ce film, Serre-moi fort, Mathieu Amalric, avec des jeunes virtuoses qui interprètent, qui sont acteurs également.
Ils sont étonnants.
Ah oui, oui, oui. Anne-Sophie Boed et Juliette Benveniste sont réellement, avant tout, des pianistes, des grandes, grandes pianistes.
D'ailleurs, il y a une scène extraordinaire avec cette jeune pianiste qui se penche complètement, qui est complètement investie de sa musique. Étonnant. Et Vicky Krieps.
Oui, on part de la lettre à Élise, comme tout le monde, mais c'est vrai qu'elle accède à Ligeti. Mais c'était dans ce texte de Claudine Galéa, l'importance du piano. Oui.
C'est déjà votre 8e film, Mathieu Amalric, mais c'est fou, hein, c'est fou comme le temps passe et comme vous arrivez à mélanger les deux, à être acteur chez les uns et votre... Parce que ça prend du temps de faire un film.
Oh oui, ça prend du temps, oui, absolument.
Benoît Le Sec...
Je suis très impressionné parce que quand on tournait Le Grand Bain, il était en train de faire Barbara.
Ouais.
Et il était, donc c'était quand même très fatigant. On avait les mêmes exercices ensemble. Donc, et le soir, il continuait à travailler sur son montage, sur son Barbara, sur son ordinateur. Alors je me dis, mais c'est pas possible, quand dors-tu ? Et il a encore la gentillesse de se déplacer à des festivals comme l'Intime Festival, le festival
que vous avez créé à la mûre.
Je sais pas comment tu as Amalric a 10 vies. Mais je sais pas comment il fait, il a une énergie, je n'ai jamais vu ça. Il faut lui poser la question.
Tu peux parler, Benoît.
Non, bon, je buvais pendant que tu travaillais.
Qui lit tout le temps, tout le temps. Sur le plateau, justement sur le Grand Bain, il avait trouvé un bateau pneumatique dans lequel il s'allongeait et il lisait. C'était beau à voir.
Vous serez également à l'affiche, mais incroyable, de The French Dispatch de Wes Anderson. Et enfin, dans une comédie musicale des frères Larrieux qui s'appelle Tralala. On va vous entendre chanter, tiens.
Ah!
Ne soyez pas vous-même.
Ma première nuit à Miami. Ma première nuit à Miami.
Je suis moi quand je suis toi.
Benoît, qu'est-ce que vous en pensez?
On dirait la musique, on dirait du Burigala.
Mais non, c'est du Philippe Catherine.
C'est Philippe Catherine, mais je suis pas loin. Burigala, Catherine, ça m'étonne pas, ouais.
Donc ça fait Catherine a composé les musiques du film avec tant d'autres, avec Bertrand Belin qui joue dans Bertrand le film aussi,
avec Jeanne Chéral,
avec Jeanne Chéral, Dominica, Étienne Dao, Kerenan, c'est sans fin. C'est chacun de nous avait un compositrice, un compositeur attitré pour tous les personnages. C'était dingue, c'est un film incroyable.
C'est Tralala des frères Larieux. Merci beaucoup, Mathieu.
En plus, un joli titre.
Ouais, c'est très joli comme titre.
Bah oui, puisque la musique, elle semble avoir une place si fondamentale.
Voilà.
Bien vu, bravo.
Merci, Mathieu Madrigo. On vous retrouve à Cannes.
Par contre, tu sais que tu vas avoir très chaud, Mathieu, parce que monter le tapis rouge l'après-midi, en plein été, je te conseille tout de même de chercher un smoking un petit peu moins épais, parce que tu vas suer, mon petit bonhomme. Je t'embrasse, Mathieu, bravo.
Merci beaucoup. Avant de parler des sorties, on va entendre ce que Benoît pense des journalistes, par exemple.
Les journalistes sont les acariens du monde moderne. Ils se nourrissent de nos peaux mortes. Ils ne découvrent plus. Ils observent platement comme une vache un train. Et ils beuglent leurs inepties, nous éclaboussant de toute leur paresse intellectuelle.
Voilà, c'était une très bonne introduction. Oh, voyez comme on se moque de nous-mêmes.
Oh, hein. Boulevard.
C'est vieux. Soyez précis maintenant. Non.
Alors, on va parler de ces sorties de ce mercredi. Ouais, là, on va commencer par Minari de Lee Isaac Chung. C'est un film qui a été oscarisé via son actrice principale, la grand-mère, une famille américaine d'origine sud-coréenne qui s'installe dans l'Arkansas. Voilà, Chung raconte en fait sa propre histoire de déracinement, de désillusion, mais aussi de célébrer les liens familiaux, même si la grand-mère fantasque et le petit-fils craquant se dégagent par leur interprétation, tous à peu près traités à égalité, dans un film simple, pudique, touchant, mais quand même un peu convenu.
Oui, un peu convenu, donc convenable. On met un certain temps, voire assez longtemps, à comprendre qu'en fait, on n'est pas du tout dans l'Amérique actuelle, mais dans celle des années 80, celle de Reagan.
Oui, bien sûr.
Et au fond, le propos du film, c'est le déplacement du rêve américain que le cinéma américain a traité, surtraité, multi, à travers de très nombreux films, de le déplacer, ce rêve américain, sur une sorte de rêve coréen en Amérique. Voilà, c'est ça le propos et peut-être le plus intéressant du film, mais comme vous le disiez très justement, on est quand même un petit peu déçu par ce traitement, par cette espèce de gentillesse globale qui alors qu'on aimerait que peut-être des choses plus saillantes apparaissent dans le film. Ça s'appelle Minari.
Tokyo Shaking de Olivier Perron avec Karine Viard. Tokyo, le 11 mars 2011, un tsunami ravage la côte du Japon menaçant de détruire la centrale de Fukushima, on connaît l'histoire. Alexandra, c'est elle, Karine Viard, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur de cette crise, tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille. En fait, c'est une femme au cœur du mensonge, ceux de ses patrons, des filiales, du gouvernement, et en même temps, c'est un film catastrophe et une satire du monde de l'entreprise.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs ça le plus intéressant du film, c'est-à-dire la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, par exemple, dans un moment incroyable de déchaînement des éléments naturels. Ça, c'est très intéressant parce que la vision personnellement des personnages japonais, par exemple, je trouve qu'on est quand même pas mal dans la caricature, hein, la façon de les poser, de les montrer. Il y a des images terribles, mais qui sont des images documentaires, et ça, c'est voilà, c'est ça reste effectivement tout à fait abominable.
Ouais.
Quelqu'un a écrit dans la presse, et c'est juste le titre d'ailleurs, qui a un léger problème, c'est que quand il y a ce genre de catastrophe, et il n'y a plus d'électricité, et c'est difficile. Ça serait difficile de faire un film dans ces conditions-là, alors que les scènes sont très très éclairées. Mais moi, c'est une remarque qui m'intéresse, parce que quelque part, on fait vivre dans ce film des situations à des personnages qui, hélas, ne peuvent pas les avoir vécu comme ça. Il n'y a plus d'électricité, on n'y voit rien. Voilà, bon, allez, c'est dit, c'est comme ça, mais c'est du cinéma, bien entendu.
Gagarine, la première fiction de Fanny Liattar et Jérémy Truil. Yuri a 16 ans, il a grandi à Gagarine, cette immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, il décide de rentrer en résistance. Ou comment réussir un film onirique sur des bases ultra réelles. Les deux réals sont arrivés à Gagarine en 2014, ont récolté multiples témoignages des habitants et ont finalement tourné quand Gagarine était vide avant la démolition pour raconter à l'arrivée un vrai dialogue entre deux personnages, Yuri l'adolescent et Gagarine l'immeuble. Et surtout, changer le regard sur la cité et sa jeunesse, Yuri l'aime et la quitter, pour lui, c'est tout perdre.
Oui, c'est un peu 2020, Odyssée d'une démolition.
Oui.
Voilà. Bon, alors c'est pas un film de Kubrick, mais en même temps, non. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a cette espèce de personnage totalement central sur lequel ils avaient fait un court métrage qui est cette tour en démolition qui va disparaître. Alors il y a une certaine naïveté qui traverse le film qu'on peut trouver un peu trop justement naïve. Il y a une façon peut-être de ne pas savoir terminer le film qui est un petit peu embêtante.
C'est
vrai, mais tout ça reste du beau cinéma et il y a une belle promesse. Je pense qu'on a envie de voir ce que ces deux réalisateurs feront par la suite. Donc Gagarine est tout à fait recommandable.
Mais c'est vrai que c'est des documents qu'on voit souvent aux news, ces immeubles qui s'effondrent et là enfin on sait ce qui se passe en gros.
Tout à fait. Non, mais ces coulisses sont passionnantes. D'ailleurs certains habitants ont reproché aux réalisateurs en leur disant mais attention ne donnez pas cette belle image de la tour, ils vont finir par ne pas la détruire. Donc voilà.
Un espion ordinaire de Dominic Cook, un film d'espionnage période guerre froide vintage, donc inspiré de faits réels, académique mais relevé par l'interprétation de Benedict Cumberbatch.
Oui, moi je trouve qu'il y a deux parties. La première partie est passionnante, elle est c'est très bien fait, c'est-à-dire cette espèce de petit homme qui va devenir espion sans le vouloir, qui a pas du tout fait pour ça, c'est pas James Bond, donc ça c'est passionnant. Mais alors une fois qu'il est dans les geôles soviétiques, alors là ça devient quand même d'une pesanteur, d'une série de clichés, tout est gris. Il y a les très très bons d'un côté, les très 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 méchants de l'autre. On se croirait revenu dans les années 50 et franchement là pour le coup on a pas envie de voir ça, c'est tout très dommage.
Voilà. Ouais, mais Benedict Cumberbatch quand même.
D'accord.
Wendy de Ben Zetlin, élevé par sa mère célibataire, Wendy s'étiole dans un quotidien dénué de magie. On est en Amérique un soir. La fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères. Au terme du voyage, il débarque sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Autant son précédent film Les Bêtes du Sud Sauvage était très mêlait subtilement réalisme et onirisme, autant celui-là s'essouffle dans le réalisme, le lyrisme, l'hermétisme. L'épopée est interminable.
Oui, on peut songer, et dans ces cas-là, c'est pas forcément un compliment, on peut songer à du sous Terrence Malick, parfois même.
Attention, La Ligne Rouge est le film préféré de Benoît Poulevard.
Oui, mais bon, tant mieux, mais.
Oui, tout le temps, c'est La Ligne Rouge.
C'est La Ligne Rouge, on est bien d'accord. Bon, bien sûr. Les enfants, ça va, et les adultes sont absolument ratés, donc c'est quand même un petit peu dommage dans cette histoire qui est aussi une confrontation entre le monde des enfants et celui des adultes.
On rappelle juste la sortie du premier film de Samir Ghesmi, l'acteur, Ibrahim. L'histoire tout en délicatesse d'un père et son fils qui n'arrivent plus à communiquer.
Son père,
Et je voulais signaler une toute petite apparition merveilleuse de Rufus à la fin, voilà.
Rufus
et Anne Galante de Philippe Bézia qui a filmé les répétitions avec tous ses danseurs de hip-hop. On avait reçu la semaine dernière Bintou Dembélé.
Bintou.
Non, oui, leur chorégraphe, Bintou Dembélé.
Les 30.
Les 30. Ils sont beaucoup, les danseurs.
Vous déteignez sur nous.
Anne Galante, très grand film, mélange de chants lyriques et de danse urbaine.
Et de Rameau.
Et c'est assez merveilleux. Et
voilà. Ouais.
Et maintenant, si on parlait des festivals, alors
on peut dire peut-être quand même qu'il y a pour les films d'avenir. Non, on parle des festivals d'abord.
Les films de l'été.
Peut-être les films de l'été.
Allez. Peut-être des quelques petits repères comme ça.
Voilà.
Le 30 juin, My Zoé de Julie Delpy, Président d'Anne Fontaine pour ces deux acteurs incroyables, Dujardin et
Gadebois.
Et Gadebois. Moi, je voudrais signaler une petite comédie très drôle qui s'appelle La Bataille du Rail. Enfin, c'est plutôt le Rail de cocaïne de Jean-Charles Pogam. Avec un acteur adorable qui s'appelle Pierre Cotin, qui est très très doué et qui va faire une belle carrière. Bergman Island le 14 juillet comme Mystère à Saint-Tropez avec Benoît Poulvorde et Christian Clavier.
Acteur aux mille facettes.
Oui. 4 août, Alerte Rouge en Afrique Noire et voilà. Et les cycles Tanner et Piala.
Oui, dans la ville blanche, Charles Morouif, le retour. Le cinéma suisse n'existe plus. Quand il existait, qu'est-ce que c'était bien. Et effectivement, une rétrospective Piala, ça fait toujours du bien à le revoir dans les salles de cinéma, évidemment.
Avant le festival de La Rochelle et Saint-Cloud, cinéma en plein air à la Villette, un mois de films gratuits projetés sur la grande pelouse du 16 juillet au 22 août, et dans la programmation cette année, Le Vent se lève, Invictus, Harvey Milk, First Man et Coco avant Chanel.
On vous verra sur grand écran en plein air à la Villette.
Étienne Balzan, vous rappelez Étienne Balzan. Aux côtés d'Audrey Tautou.
C'est vrai.
La Rochelle.
Rochelle, 25 juin jusqu'au 4 juillet. Hommage à Xavier Beauvois, hommage à Gabriel Yared, rétrospective Rossellini, René Clément, Piala, Cimino et j'en oublie. des ciné-concerts, vraiment, quand on aime le cinéma, on va sans problème à La Rochelle parce que le programme est d'une richesse sidérante. Du 25 juin au 4 juillet, La Rochelle.
Et un dernier petit avant les cadeaux.
Alors, du 9 juillet au 29 août, il y a au domaine de Saint-Cloud, très beau domaine de Saint-Cloud de près de Paris, paysage et cinéma, 5 cadres donnés, 5 invités, 5 installations, dont celle de Nicolas Parizère et Caroline Vignal, avec également un éclairage sur une partie de campagne de Renoir. C'est très alléchant, là aussi.
Il reste une minute, Laurent, pour aller tous les cadeaux qu'on nous allons offrir à Bonapoulevard.
Deux bouquins. Le premier bouquin, c'est David Niven, Les Mémoires.
Il paraît que c'est très bien.
C'est très très bien. Vous allez voir, vous allez rire. C'est formidable. C'est vraiment
une vie d'aventure.
Un gentleman extraordinaire.
Ah, il est déjà écorné.
C'est chez comment il est déjà écorné.
Mais pas n'importe quoi.
Vous mentez.
Il ment. Vite, Laurent. Vite.
Donc ça, c'est chez Séguier. Tito Topin, Casablanca, l'aventure d'un film. On connaît tous le film. Vous allez découvrir beaucoup d'aspects de ce très beau chef-d'œuvre, évidemment, de l'histoire du cinéma.
Ah oui, je vois, vous avez eu le temps de mettre votre café dessus, c'est très bien, voilà.
Un combo DVD, Seuls les anges ont des ailes, Howard Hawks, chez Wildside.
Alors là, mais quel travail, ils font, magnifique.
Film d'aventure, merveilleux.
Le livret est génial, les photos, fantastiques.
Et un polar noir de chez Noir, Marché de Brut d'Anthony Mann, chez Rimini, ça c'est aussi magnifique, film DVD, Blu-ray, avec un livret. Voilà, on est heureux de vous offrir tout ça.
Formidable. Allez, et tu n'as pas le boîtier, tu l'as, non?
Vous l'avez sous les yeux.
Merci Bonapoulevard à l'affiche. Donc, de Profession du Père de Jean-Pierre Améry, sorti le 28 juillet. On se dépêche, on revient le 4 septembre à l'antenne.
Et comment donc?
Mais quand même, ce générique que nous vous donnons, Bonapoulevard, ça sera le dernier. Vous ne le retrouvez pas l'an prochain. Au revoir.
C'était un générique inspiré du mépris de Jean-Luc Godard.
Lu par des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes et des chefs opérateurs de toutes destinations et dans toutes les langues. Et moi, Bonapoulevard, hélas, je serai le dernier à le lire et à dire « Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez, Christophe, mon Christophe Majer, s'est génialement occupé de la préparation. » C'est une émission réalisée par Laurane Malorane, Thomas et le génial David Leprince. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et oui, moi, Benoît Poulvorde, j'y étais et je compte bien y revenir.